Salut tout le monde. Voilà, on n'arrête pas de nous gonfler le mou avec le débarquement. Je voudrais juste rappeler que s'il n'y avait pas eu en mars 1945 la bataille de Stalingrad, grâce aux Russes et à l'organisation FTP-MOI en France, jamais il n'y aurait eu ce débarquement. Et je rappelle avec insistance, et je souligne ces mots, qu'aujourd'hui, 60 ans après, pas un mot sur le génocide des Tziganes. L'État français ne reconnaît même pas ses responsabilités dans le génocide des Tziganes.
Bonjour, j'aurais aimé faire une petite remarque quant au journal d'aujourd'hui, au journal de 13h. Je voulais dire merci à M. Schroeder, que j'ai écouté hier. Il a bien voulu évoquer au radour sur Glane le sacrifice du peuple russe, et je remercie encore. Des paroles, bien que simplement dites, plus belles encore que des images, et je pense à celle de Willy Brandt à Varsovie ou à Paul Mitterrand se donnant la main. Mais chez nous, on note votre remarque sur au radour, on oublie celle qui se rapporte au peuple russe. Toujours confère le journal de midi de ce jour. Les Russes soviétiques, assez gros mots, pour nous, Français si adaptables, n'auraient-ils jamais existé? Tout de même, 20 millions de morts. J'aurais aimé faire également une autre remarque quant à l'intervenante allemande là, qui a parlé encore au journal du midi. Elle trouve sans importance les souffrances endurées par les premières victimes allemandes du nazisme. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient juifs ou communistes? Et cela m'inquiète vraiment.
Juste deux messages aujourd'hui choisis sur le dans le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Juste deux messages pour introduire l'émission d'aujourd'hui. On est dans une période de remue mémoire où en effet se vérifie encore une fois que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, et il nous a semblé intéressant en effet de revenir sur Stalingrad. À Stalingrad, on dit plus Stalingrad, on dit Volgograd, mais c'est quand même bel et bien là qu'au début de 1943, au prix du sang, au prix des larmes, au prix d'une épopée, d'une bataille terrible, eh bien la peur a changé de camp. Alors très longtemps, évidemment, Stalingrad a fait l'objet d'une exploitation par la propagande soviétique. C'est de bonne guerre. Non, en tous les cas, c'était de guerre et c'était de guerre froide. N'empêche qu'aujourd'hui, eh bien, les Russes vénèrent cet endroit, et c'est un trou dans la mémoire, une mémoire toujours vive pour les Russes. Voilà pourquoi on va revenir sur l'anniversaire, le 60e anniversaire de la bataille de Stalingrad. Où je suis, c'est Rome. Et qu'est-ce que je fais à Rome à l'instant? Eh bien, il nous a semblé intéressant, à cause de l'affaire Battisti, de faire un tour un peu en Italie, et pas seulement en Italie, mais dans les années de plomb, dans les années 70. Il nous a semblé que les réactions des intellectuels, des journalistes, de l'opinion à l'affaire Battisti, dans un sens d'abord tout à fait enthousiaste, et puis ensuite dans un sens de rejet, de silence et de refus même, il lui a semblé intéressant de venir essayer de comprendre ce que furent ces années du terrorisme noir, du terrorisme rouge, l'affaire Aldo Moro et l'affaire de Gladio, l'affaire de la loge P2. Et donc voilà pourquoi on est là en train de commencer une série d'enquêtes et de reportages qu'on vous présentera dans deux semaines si tout va bien. Pour l'instant, Mamaev Kourgan.
Vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance!
Там, где я нахожусь. Là-bas, si je suis.
Au loin, dans la fumée, apparaît Stalingrad.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Aude Merlin. Là-bas, si j'y suis, Nishagou Nazad, Stalingrad.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors là, c'est terrible. Mamaev Kourgan, voilà, la garde qui passe devant nous. petit soldat qui marche au pas de loi. Ça, c'est un grand jour. La relève de la garde, ils ont 18 ans, ces garçons. Hein. Ils ont l'âge de ceux qui sont morts ici. Sur le Mamaev Kourgan, c'est-à-dire sur ce mont où aujourd'hui, 60 ans après, on célèbre la victoire de Stalingrad. Et là, on est dans cet endroit, mais stalinissime, soviétissime. Une main en béton avec un genre de cornet de glace d'où sort une flamme éternelle. Et puis c'est russe, c'est, j'allais dire c'est soviétique, où il y a quelque chose quand même d'un retour, ou de quelque chose qui revient, qui a survécu, comme on voudra, une nostalgie. C'est un grand amphithéâtre circulaire, tapissé de mosaïques d'or qui se reflètent avec des figurations de bannières. Et si on s'approche, on s'aperçoit que ces bannières sont ornées d'autant de noms, de milliers, des milliers, des milliers de noms. Et par le haut, ouvert sur le ciel, il fait beau aujourd'hui. On aperçoit le visage et le bras tendu avec le poing refermé sur le glaive de la fameuse statue du Mamaev Kourgan, une statue qui fait 90 mètres, je crois, de haut.
Stalingrad, les batteries allemandes ouvrent le feu dans le but d'enrayer une violente attaque soviétique. Dans ce quartier de Stalingrad, la bataille s'est tue. Et voici des vues de la ville morte sur laquelle un ouragan de fer et de feu s'est abattu durant plusieurs mois. Cette grande usine de tracteurs avait été transformée par les soviets en une usine de chars.
L'ouragan de fer et de feu, des commentaires des actualités cinématographiques de l'époque. Entre ces deux commentaires, eh bien, 1, 2, 3 millions de morts au total. On ne sait pas exactement aujourd'hui combien d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts à Stalingrad. Au cours des 180 jours de cette incroyable bataille, la plus féroce, la plus barbare et la plus héroïque de l'histoire de l'humanité, selon les historiens. 2 à 3 millions de morts sur les 27 millions de victimes de la grande guerre patriotique, c'est-à-dire la deuxième guerre mondiale côté soviétique. Donc 60e anniversaire, c'est aujourd'hui que sur cette colline, le Mamaev Kourgan, les habitants de la ville et tous sont là, et des gens venus de loin, 20 heures de train depuis Moscou, pour assister à cette journée. Beaucoup de vétérans, de personnes âgées, c'est 80 ans, puisque c'était en 1943, et pour combattre, il fallait au moins avoir 16 ans, 17 ans, qui sont là, des messieurs, des dames aussi, qui se sont battues, ou bien qui étaient infirmières, mais certaines de ces dames se sont bel et bien battues. On a rencontré beaucoup. Et puis, elles sont évidemment, et ils sont évidemment, avec ces médailles, ces fameuses médailles qui ont évidemment sont presque liées. C'est presque un symbole maintenant de ces ex-soviétiques. Alors évidemment, le lieu est pompeux, le lieu est emphatique, le lieu est boursouflé, le lieu est éminemment stalinien. La ville a été entièrement rasée et entièrement reconstruite. Et après la guerre, et spécialement cet endroit de mémoire, de culte, qu'est le Mamaev Kourgan. Alors, on y a la larme facile, l'émotion très grande, la vantardise et les fanfaronnades des anciens combattants, bien évidemment, mais, n'empêche, à Stalingrad, comme partout, comme aujourd'hui, comme dans 60 ans, il y aura des minutes de silence. Et à quoi pense-t-on pendant les minutes de silence? Est-ce qu'on pense plus jamais ça, vraiment plus jamais ça, ou bien est-ce qu'on est en train de préparer et de renouveler les forces pour demain? C'est un grand énigme, une énigme qui est notre détresse, une de nos détresses fondamentales, celle de la provocation au combat, qui est la séduction absolue du mal, comme disait Kafka. Car si nous détestons la guerre, il y a des moments où il faut la faire, où il a fallu la faire. Et en 1941, le 22 juin, au petit matin, lorsque les armées du Reich, 4 millions d'hommes au total, envahissent l'URSS, eh bien, c'est une guerre de civilisation, c'est une guerre de race, c'est une guerre de tout ce qu'on veut, mais c'est une guerre contre un peuple, c'est une guerre pour conquérir des territoires. C'est le Drang nach Osten, disait Hitler, c'était la poussée vers l'Est. Il en rêvait, le petit Adolphe, qui, après avoir sans problème envahi la France, la Pologne et les Balkans, eh bien, voulait réaliser son rêve d'un espace vital, conquérir un espace vital nécessaire à son empire, à l'empire allemand, vers l'Est. Donc, le 22 juin, au petit matin, attaque de l'URSS par le Reich. C'est une guerre contre les Slaves, contre les communistes, contre les Juifs. C'est une croisade européenne contre le bolchevisme. On entendra, j'espère, des documents français qui vont dans ce sens, qui appuient cette idée, contre la pieuvre judéo-bolchevique. C'est une Rassenkampf, c'est-à-dire une guerre de race. La propagande a endoctriné les soldats allemands. 3350 chars, 7000 canons, 2000 avions, 600 000 chevaux. La campagne sera très rapide. La guerre avec la Russie ne durera que quelques semaines. Quelques semaines. Toutes les guerres commencent par ne durer que quelques semaines. On n'avait même pas prévu de vêtements pour l'hiver. C'est Blitzkrieg. La Blitzkrieg, c'est-à-dire la guerre éclair. On connaît l'histoire sur ce front de 3000 kilomètres qui va se constituer. Dans un premier temps, Staline n'y croit pas. L'armée rouge est prise de court. L'URSS est prise au dépourvu. Dans les jours qui suivent cette attaque, des dizaines de milliers de tués dans les tout premiers jours, des centaines de milliers de prisonniers, l'armement soviétique détruit, blindé, artillerie, avions, par dizaines de milliers, en 9 heures, le deuxième jour, le 23 juin 1941, l'aviation allemande détruit 1200 avions soviétiques. Et alors, que va faire Staline? Eh bien, il va faire appel non plus à la lutte des classes, non plus à la dictature du prolétariat, mais à la patrie, à la mère patrie. Il va évoquer Alexandre Nevsky, il va évoquer Pushkin, tout ce qui tient au cœur et aux tripes des Russes, c'est la mystique de la patrie. Et 4 millions de personnes, 4 millions sont volontaires ou se sentent obligés peut-être pour s'engager dans la milice, pour aller se battre tout de suite, à main nue, parfois sans uniforme, parfois sans armes. Ils sont jetés contre les blindés de la Wehrmacht. C'est une boucherie. Les chefs militaires allemands sont suffoqués de la prodigieuse quantité de vie humaine que les autorités soviétiques et l'encadrement militaire soviétique a la possibilité de gâcher. Les chefs militaires allemands avaient pensé qu'aucune société gouvernée par la terreur politique ne pourrait résister à une attaque extérieure. Et cette terreur, elle était très grande. En Ukraine, par exemple, entre 32 et 33, la famine organisée par Staline fit 5 millions de victimes. C'est dire que les Ukrainiens n'avaient pas trop envie de se battre du côté soviétique. Et on sait l'accueil qu'une partie de ces Ukrainiens firent aux armées du Reich lorsqu'elles entrèrent en Ukraine. Alors après un flottement, Staline fait donc appel à la grande guerre patriotique. La grande guerre patriotique, c'était les termes mêmes utilisés en 1812 contre les armées napoléoniennes. Et les choses peu à peu vont s'aggraver. Pour ce qui concerne Stalingrad, qu'on va évoquer aujourd'hui avec l'historien anglais Anthony Beevor, ça va être dans un premier temps, après que les armées du Reich cernent et prennent Stalingrad, entourent Stalingrad et bombardent Stalingrad, ça va être d'abord ce qu'on appellera Rattenkrieg, c'est-à-dire une guerre, la guerre des rats. Et puis les choses changeront, basculeront le fameux 19 novembre et puis le 2 février, retournement total, ce sera la victoire. Et c'est le retournement, non seulement c'est une victoire inespérée pour l'Union soviétique, mais cette victoire après celle de Moscou, qu'il faut jamais oublier. Il faut bien rappeler que les armées du Reich ne sont jamais entrées dans Moscou, mais c'est à Stalingrad que la guerre a fait demi-tour et que, comme disait Churchill, les gonds du destin ont changé. Alors Anthony Beevor, je le disais, est un historien anglais. Il est l'auteur d'un livre absolument remarquable qui est un best-seller vendu dans le monde entier et qui retrace cette bataille de Stalingrad, cette épopée extraordinaire de la bataille de Stalingrad. C'est une description très détaillée avec une quantité d'histoire qui est considérable. Évidemment que le plus grand livre sur cette bataille, c'est celui de Vassili Grossman, mais Vassili Grossman n'est plus là. On est donc avec Anthony Beevor, qui nous raconte précisément ce que fut cette Rattenkrieg.
Rattenkrieg durait du mois de septembre jusqu'au mois de novembre. À partir du mois de novembre, on parle de l'encerclement.
C'est ça, 19 novembre, on situe le renversement au 19 novembre.
Exactement, parce que à partir du 19 novembre, les batailles dans la cité même étaient beaucoup moins intenses, parce que les Allemands n'avaient pas les munitions, c'est-à-dire il fallait se défendre, ils ne pouvaient pas attaquer comme ils avaient fait dans le passé. Mais ils avaient complètement sous-estimé la capacité de l'armée rouge de monter une attaque efficace. La stratégie évoluée par le maréchal Joukov et le général Vasilevski, parce que ensemble ces deux avaient choisi la stratégie de l'encerclement, mais de l'encerclement en profondeur. Staline voulait avoir un petit encerclement qui aurait échoué, mais cet encerclement en profondeur était vraiment la victoire à Stalingrad. Et le moment qu'ils ont été entourés par cette opération Uranus, qui était tellement choquant pour les Allemands, en novembre, fin novembre 1942, que le moment que cette armée encercle, il faut se rappeler, un tiers d'un million d'hommes, c'était la plus grande armée allemande de toute la Wehrmacht, a été complètement entourée. C'était impossible en Allemagne.
Comment ça a été possible, ça? C'est que Staline avait réussi à reconstruire, à réinstaller des usines d'armement plus à l'est.
Oui, toutes ces usines de chars, surtout le fameux T-34, était en train d'être construit dans les usines à Tcheliabinsk, comme on s'est appelé Tankograd. C'est-à-dire 24 heures sur 24, les lignes roulaient dans les usines, qui étaient souvent au plein air, c'est-à-dire ils étaient construits dans la neige pour faire marcher les lignes de production. Ce char était très utile parce que c'était très simple et bien pour la neige.
À l'extrême nord du front de l'Est, les pionniers allemands déblaient la route obstruée par d'incessantes chutes de neige. Ce chasse-neige effectue en un jour un travail supérieur à celui que pourraient accomplir 7000 hommes. Jour de grand nettoyage. La neige est un détachant excellent et qui ne manque pas. La dure bataille défensive continue à faire rage. Les avions soviétiques attaquent. Avec impatience par les avant-postes, l'arrivée de la soupe. À leur tour, les chars ennemis tentent de percer les lignes allemandes. Le lendemain, vision du champ de bataille.
Très ému quand même, hein. C'est un grand moment. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont en train de renouer avec leur histoire ou une partie de leur histoire? La garde sort comme ça et dehors c'est la neige et avec cette petite silhouette noire entre les sapins. Et là il y a une dame. Bonjour, comment vous vous appelez?
Valentine Vassilievna.
Valentine Vassilievna.
Je regardais les noms là sur les mosaïques. Il y a des noms de gens que vous connaissez ici?
Oui, j'ai trouvé mon père ici. Ici, il y a le nom de Bagatov, Vassili, avec le même patronyme. Alors, je me dis que c'est peut-être lui et que c'est son nom qui a été inscrit ici.
Sergent,
il était sergent.
Et vous, vous étiez enfant? Vous aviez quel âge au moment de la bataille de Stalingrad?
10 ans environ.
De quoi vous vous souvenez?
De tout. Oui. Mon frère a été tué par les Allemands. Ils l'ont fusillé.
Il avait quel âge?
Il était né en 29. Il devait avoir environ 12 ans.
Он высоко повылез, и мы стреляли его.
Oui.
И мама кричала, но они ничего даже и на маму наставили, на нас.
Он était dans les tranchées, lui sortait, потом... ils l'ont fusillé.
И мы его во дворе же похоронили.
И après, там бомбили dans la cour. Il y avait des bombardements partout.
Mais vous êtes resté dans le chaudron, à l'intérieur de la ville pendant tout le temps.
Да. Вот не это, мы вот здесь мама, а мы жили. Ну, пять остановок. В Краснооктябрьском районе мы жили.
Ici, c'est le Mamaïev, et nous, on vivait à 5 arrêts de bus, dans le quartier Octobre Rouge. Yeah.
Une mémoire parmi d'autres, celle de cette femme, Valentine Vassilievna, dont le petit frère à l'époque, 12 ans, a été fusillé en sortant d'une tranchée. Il n'y a pas un russe, un ex-soviétique qui n'ait pas perdu quelqu'un dans sa famille, un père, un grand-père. Il faut penser à ça quand on va quelque part. Quelle est la mémoire des gens? Pourquoi? Il y a ça dans les esprits, il y a ça dans les âmes. On va employer un mot bien russe, dans les âmes. Et on peut être étonné qu'il y ait eu des civils qui soient restés dans cette ville de Stalingrad qui a été, je le répète encore une fois, un champ de bataille d'une cruauté, d'une barbarie infinie. Volgograd aujourd'hui, enfin Stalingrad hier, est une ville qui est le long de la Volga. Aujourd'hui, c'est une ville qui fait 80 km de long, qui est tout en longueur comme ça. Et on aurait pu croire que on allait évacuer les civils, femmes, familles, enfants, etc. Alors on en a évacué une partie par bateau, barque sur la Volga, ce qui était évidemment très périlleux parce qu'aussitôt l'artillerie allemande tirait sur ces embarcations, très exposées et très visibles. Bien évidemment, on pouvait espérer franchir la Volga et après être réfugié. Mais on affirme, et les historiens le prouvent de plus en plus, parce qu'on a des archives auxquelles on a accès aujourd'hui, Staline avait dit « on ne défend pas une ville vide ». Donc, ça voulait dire qu'il fallait que des civils restent dans la ville pour que les hommes, pour que les soldats, et une partie de femmes aussi, aient envie de sauver cette ville. Sans ces civils, on pensait qu'il n'y aurait pas l'énergie, l'envie, l'héroïsme nécessaire, le sacrifice aussi, parce qu'il y a eu énormément de sacrifices humains, incroyables, c'est incroyable, dans cette ville. Et donc, et ben cette femme que nous rencontrons, Valentine Vassilievna, faisait partie de ces civils, de ces enfants à l'époque, qui sont donc restés dans cette ville. On est dans ce lieu de mémoire, évidemment, pompeux, évidemment, mis en scène, mais c'est évidemment un moment tout à fait bouleversant, anniversaire de la victoire du 2 février 1943.
Vous croyez que tout ça a été utile?
Il y a tellement de gens qui sont morts.
Quand
il y avait des bombardements, il fallait enterrer les gens.
Et aujourd'hui, vous voulez qu'on rebaptise la ville Stalingrad, ou vous pensez qu'il faut que la ville continue de s'appeler Volgograd?
Ce serait quand même souhaitable, parce qu'il y a tellement de gens qui sont morts à Stalingrad. Et tout à coup, on a changé le nom de Volgograd. Sur nos papiers, sur nos actes de naissance, on a écrit Stalingrad. C'est le nom de Stalingrad qui est écrit.
Ah, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui?
Sur la tombe. Je suis venue pour écouter, pour voir.
Vous êtes contente que Poutine vienne aujourd'hui?
Non,
qui
vient, on n'est pas contre. On n'est pas contre, bien sûr. On ne sait pas ce qui va se passer après. C'est la vie qui nous le montrera. Qui sait?
За Мамаевым курганом тишина. В том кургане похоронена война. В мирный берег тихо плещется волна. В том кургане похоронена война. Мирный берег, тихо плещется волна. Вот уж вечер волгоградский настает, а старушка не уходит, сына ждет. В мирный берег, тихо плещется волна, разговаривает с матерью она. В мирный берег тихо плещется волна, разговаривает с матерью она.
Même aujourd'hui, ils sont toujours des millions à connaître cette mélodie par cœur. Le chant du Mama Eve Kourgan, sur lequel nous nous trouvons, cette colline à Volgograd, ex-Stalingrad, pour commémorer le 60e anniversaire de cette bataille et de cette victoire. Victoire, justement, retrouve l'historien anglais Anthony Beevor. Comment les habitants de Stalingrad vivent cette victoire ? Dans quel état ils sont le jour, ce fameux 2 février 1943 ?
Ils étaient beaucoup trop faibles. Ils étaient beaucoup trop faibles et beaucoup trop choqués par leur expérience de célébrer. Mais ce que s'était arrivé, que le moment où le cessez-le-feu arrivait, tous les soldats qui étaient sur la rive orientale du Volga avaient traversé la glace en marchant avec toute la nourriture qu'ils pouvaient trouver pour aller l'emmener aux civils toujours dans la cité, dans le champ de bataille. La chose la plus étonnante de toute la bataille était qu'à la fin de la bataille, on avait trouvé 10 000 civils toujours vivants dans ces ruines au milieu de ce champ de bataille, dont 1 000 enfants. Bien sûr, ces enfants étaient complètement traumatisés, des orphelins dans un état pitoyable. Ils ont survécu en mangeant des racines. Et souvent, ils ont gagné une miette de pain ou quelque chose comme ça d'un soldat allemand pendant la bataille. Parce que les Allemands avaient soif, il n'y avait pas de l'eau pure à Stalingrad. Et donc, pour éviter les tireurs d'élite soviétiques, et ils avaient donné un peu de pain aux petits enfants russes pour remplir leurs gourdes dans le Volga. Mais le moment que les autorités soviétiques avaient compris ce qui arrivait, ils avaient donné les ordres aux tireurs d'élite d'abattre ces enfants russes pour empêcher les Allemands d'avoir de l'eau.
Des enfants qui lui apportent des œillets. Et le grand-père est là avec sa canne, dont il se sert comme un fusil. Il agite ses œillets, on vient de lui donner des œillets. On est devant ce monument au soleil, il fait très froid. Et tout autour de ce grand-père qui raconte héroïquement son truc, il y a tout un tas de gens qui écoutent entre le respect, l'émotion, le sourire, les larmes.
Après, quand on a réussi à rassembler toutes les barques,
à ce
moment-là, ils nous ont tiré dessus.
C'est ça.
On était 300 personnes à peu près, c'était pas un bataillon. Et eux, ils étaient plus de 12 000.
300 contre 12 000.
Vous comprenez comment ?
Alors on sourit, 300 contre 12 000, et c'est possible, et c'est tout à fait possible. D'ailleurs, dans la foule, dans le cercle de visiteurs, de gens qui sont là pour la commémoration, qui s'est formé autour de ce grand-père avec ses médailles, avec sa canne, avec son chapeau de fourrure qui fait ce récit, parce que on est là avec notre micro et puis il y a une française, il y a une traductrice qui est là, alors ça fait un attroupement, mais on nous oublie très vite, on oublie les journalistes et on écoute le récit. Alors on écoute en souriant, on écoute ébahi, on savait pas, on écoute avec émotion parce que ça renvoie à des histoires mémoire personnelle, à cette mémoire dont je parlais tout à l'heure, et 300 contre 12 000, c'est bien sûr, ça semble fanfaron. Non, ça n'était pas nécessairement. Et puis si c'est pas tout à fait vrai à ce moment-là, ça a été vrai pour autre chose. C'est ainsi que la mémoire se transmet. Pratiquement toute l'histoire qui se transmet de génération en génération à travers les siècles, c'est très souvent des histoires de batailles, des histoires de guerre, des histoires d'héroïsme, des histoires où on était à la limite. Et là, 60 ans après, c'est le jour de ce grand-père dans ce cercle de Russes.
C'était
le 15 au matin.
Il
avait un bracelet en or.
Et
le camarade me dit, est-ce que c'est à lui, on me l'a offert à Paris. C'est des bobards, il a tué quelqu'un et il a volé ce bracelet en or sur la personne mort. Olia, tue-le, exécute-le.
Et vous l'avez tué?
Oui, je l'ai fusillé, comme ça.
Oui.
Parce que c'est pas un humain, c'est de la vermine. Voilà.
J'ai participé
au combat. Quand on est parti ici le matin sur le Mamaïev Kourgan, on venait d'Octobre Rouge. On venait de l'usine Octobre Rouge et on est parti vers la Volga.
Et là on a enjambé
les cadavres. Il y avait des obus.
Il crie, tirez les blindés.
Et là, à ce moment-là, nous, on est partis courageusement, hurrah. Et l'autre criait, Hitler kaput.
Le récit continue, le grand-père continue à raconter avec ses œillets à la main, avec sa canne, quand il a besoin d'expliquer un tir ou quelque chose. Et il est entouré d'une centaine de personnes, peut-être, avec ce rayon de soleil, sur le tchapka, sur les regards qui le suivent, beaucoup d'attention. Les gosses qui suivent le récit, d'autres qui sourient un petit peu, mais avec beaucoup de tendresse. C'est une célébration de quelque chose. Et on est sur le Mamaïev Kourgan, devant ce mur, avec des bas-reliefs qui représentent des combattants, qui représentent enfin les grands moments, l'apogée du stalinisme, mais aussi un moment où le monde a basculé grâce au sacrifice d'hommes comme celui-là.
Pour que vivent et leurs descendants, et vous, et nous, pour qu'on puisse s'embrasser, et pour qu'on puisse s'aimer, et qu'il y ait la bonté soit toujours victorieuse sur le mal.
Дороги были до тумана, холода тревоги, до степной буря, знать не можешь доли своей. Может, крылья сложишь под сиренистые перья. сыночка ждет.
Jour de profonde émotion à Volgograd, le grand-père qui fait son récit, on l'écoute, on l'évoque des moments d'héroïsme, il y en a beaucoup d'autres, durant toute cette bataille et cette grande guerre, les journaux et puis la propagande racontaient des exploits plus héroïques les uns que les autres, mais n'oublions pas que Staline avait lancé un avertissement aux civils, comme aux militaires par une citation de Lénine, que voici, ceux qui n'assistent pas à l'armée rouge par tous les moyens et ne se conforment pas à son ordre et à sa discipline, sont des traîtres et ils doivent être tués sans pitié. C'était une guerre sans pitié. Alors, à quoi était dû cet héroïsme ? La question reste entière. Dans la foule, dans cette foule de ce jour-là, un très beau ciel bleu, il fait très froid, c'est un beau temps russe. Il y a un homme qui vient d'écouter le grand-père et son récit est héroïque et qui a envie de parler.
Les gens qui ont combattu.
Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Vous avez une cinquantaine d'années ?
J'ai 57 ans.
Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, c'est une journée comme aujourd'hui?
Я смотрю по большому счету. Это наши отцы завоевали.
Ce sont nos pères qui se sont battus. Et vous savez, je suis en train de vous parler, j'ai les larmes qui montent aux yeux.
Отец погиб почти.
Il y a mon père qui est mort.
Да, он у меня умер в 30 лет.
Il est mort à 30 ans.
Да, он воевал здесь.
Ici, il a combattu ici.
Я вот представляете, мне тяжело даже
говорить об этом. Très difficile pour moi d'en parler, vous voyez.
Отец, вот этот отец, он правильно.
Ce petit père.
Перешел это.
C'est vrai, il a vécu tout ça.
Vous pensez que l'Union soviétique a trompé ces hommes?
Oui, oui. Tous ont été trompés. Et le pouvoir continue de nous tromper. Et aujourd'hui encore. Des vieux, des petits vieux comme lui et puis des gens comme nous, retraités. Par exemple, moi, je peux me faire arrêter parce que je parle trop, là. Est-ce que si je vous parle ici, on va pas m'arrêter?
Vous croyez? Non.
Bien sûr que c'est possible. Tout est possible chez nous.
À nouveau?
Moi, je suis un homme de vérité. Je n'aime que la vérité.
Правда, глаза колет.
Le problème, c'est que la vérité, elle crève toujours les yeux.
Поживите с такими стариками.
Vivez avec des petits vieux comme lui.
Я даже вас могу.
Et vivez à notre époque.
Привести вас в такие дома.
Je peux vous emmener dans des immeubles, dans des appartements.
Люди живут в нищенском состоянии.
Dans un état de totale misère.
Вот такие старики.
Des gens comme
на
lui.
На лекарства пенсию платят.
On leur donne 1500 roubles de retraite et pour les médicaments, ils doivent dépenser 1200, 1300 roubles. Comment on peut vivre comme ça? Comment on peut vivre une personne comme ça? C'est terrible. On vit une époque terrible.
Ces vétérans à qui on disait comme ça, d'une façon un peu étourdie, vous avez des belles médailles, nous a dit, oui, mais c'est dommage qu'on puisse pas les manger. C'est dommage qu'on puisse pas les manger. Et ça correspond à ce que nous dit cet homme qui est là et qui a compris pas mal de choses. Les jeunes qui regardent aussi ces faits héroïques et qui ont les yeux qui brillent sans qu'on puisse savoir exactement, sans qu'ils puissent savoir non plus eux-mêmes s'ils rejettent cette horreur, ou bien si au contraire ils rêvent à leur tour d'entrer dans la carrière quand leurs aînés n'y seront plus. Ce que fut cette victoire, jubilation et caution, l'historien anglais Anthony Beevor. Et comment ça a été reçu alors, cette victoire?
Bien sûr, la réaction partout en Russie était une jubilation immense, parce que c'était impensable, ou presque impensable, de battre les Allemands, mais de battre les Allemands avec leur propre stratégie, avec leur propre tactique d'encerclement comme ça. Et pour la première fois, ils avaient vraiment le courage et la foi que l'Allemagne sera battue, les nazis seront battus. À partir de la bataille de Stalingrad, c'était inévitable que l'Allemagne nazie sera écrasée et donc la résistance prenait une ampleur beaucoup plus importante, pas seulement en France, mais partout dans les autres pays occupés de l'Europe. Mais aussi, il faut voir que Stalingrad, par l'autosacrifice des Russes, mettait les alliés de l'Ouest, les Anglais et les Américains, dans une situation où il fallait traiter Staline et l'Union soviétique d'une façon très différente. Et c'était directement comme résultat de Stalingrad que Staline, à la conférence de Téhéran, pouvait s'imposer comme le superpower, comme la superpuissance. Et c'était le moment où l'Union soviétique n'était plus une grande puissance, mais vraiment une superpuissance.
Et puis évidemment, l'importance qu'aura cette victoire pour les partis communistes dans le monde, et notamment évidemment pour le Parti communiste français, qui deviendra le parti le plus stalinien.
La fille aînée de l'église stalinienne, oui, oui.
Ah oui, c'est comme ça qu'on dit?
Oui, oui.
Comment vous vous appelez?
Pauline Vassilievna.
Je m'appelle Pauline Vassilievna.
Et vous avez quel âge?
Voici une sadine.
81.
81. Donc vous aviez 21 ans il y a 60 ans. Côte. C'est-à-dire au moment de la bataille de Stalingrad. Donc vous avez vu les Allemands arriver?
Bien sûr, comment je puis ne pas les voir? On a tout vu. Il y avait des bombardements, il y avait de tels bombardements.
C'est dans Maharelli.
Toutes les maisons brûlées, la terre brûlée. Mes deux frères ont été tués à la guerre. Ils étaient jeunes, ils n'étaient pas encore mariés. Tout jeunes, de 17 et 18 ans.
Elle pleure cette femme, c'est terrible. Là, 60 ans après, on a l'impression que c'est...
Et après, quand Stalingrad a été libéré, tout était détruit. Il n'y avait pas de logement. Et notre maison était complètement détruite, mais on a bricolé, on a rafistolé une petite cabane et on a vécu dedans.
Et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui?
Pour voir, on a dit que Poutine allait venir. À deux heures, Poutine viendra. Je suis venu pour le voir vivant.
Vous l'aimez bien?
Oh, beaucoup.
Qu'est-ce que vous préférez, Poutine ou Staline?
C'est-à-dire que Staline, il n'est plus, et qui s'occupe de nous maintenant, c'est Poutine.
C'est une journée d'émotion.
J'ai allumé la télé, je me suis mise à pleurer, je suis venue ici, je continue de pleurer.
Bon, mais vous allez peut-être voir Poutine.
Je vais rester assise ici. Il va arriver de là-bas. Il va passer par là. Je le verrai comme ça. Il va arriver par cette allée.
Il ne faut pas le louper.
C'est pour ça que je me suis mise là. Ah voilà, il est quelle heure? Bah oui, dans un quart d'heure.
C'était un reportage de Daniel Mermet. Merci à Anthony Bivor, historien, auteur de Stalingrad aux éditions de la Librairie Générale Française, et Aude Merlin pour la traduction. Plus d'informations à votre disposition sur le site de là-bas si j'y suis en allant sur franceinter.com. À la technique, Éric Gérard et Olivier Riotor. Réalisation Coy Nguyen, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello. Chef du répondeur, Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez le répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.
На Мамаевом кургане тишина, за Мамаевом курганом тишина.
Le silence plane derrière le Mamaïev kurgan.
В том кургане похоронена война в мирный берег. тихо плещется волна в том кургане.
La guerre est enterrée dans ce kourgan. Et la vague bruisse doucement sur la rive apaisée. Face à ce silence sacré, une femme avance, la tête penchée, murmurant quelque chose en elle. Cette femme aux cheveux blancs, espérant voir son fils, elle murmure quelque chose en elle. Cette femme aux cheveux blancs, espérant voir son fils.
Сына ждет, мирный берег.